Le balado que tu t'apprêtes à écouter, tu peux pas l'entendre ailleurs. C'est une exclusivité.
88.3,
c'est fac.
Ça part ici.
Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être venus aussi nombreux pour ce troisième épisode de l'émission On jase politique. Cette semaine, avec mon ami Aurélien, nous deux, nous avons décidé d'aborder l'élection de Zoran Mamdani à la mairie de New York. Cet événement, on en entend beaucoup parler forcément parce que surtout que le nouveau maire se démarque particulièrement par son profil. Déjà, il est jeune, 34 ans, né en Ouganda de parents indiens. Et surtout, pas des moindres, il se revendique du socialisme, ce qui paraît pour certains comme un ovni dans le paysage politique américain. Donc, avec Aurélien, nous allons analyser plus en détail cette victoire, en abordant notamment le thème du socialisme aux États-Unis et sur les perspectives éventuelles sur la politique américaine, voire mondiale. Aurélien, je te laisse te présenter succinctement.
Oui, bonjour à tous et à toutes. Je suis Aurélien, je suis étudiant titulaire du bac en économie à l'Université de Sherbrooke et je suis aux études en maîtrise de politique publique internationale à l'Université de Sherbrooke.
Merci. Et moi, pour me présenter rapidement, donc mon nom c'est Maden, je suis diplômé en maîtrise d'histoire à l'Université de Sherbrooke et tout simplement passionné de politique. Voilà. Donc concernant le premier bloc que je voulais aborder, c'était sur les événements comme tels, les événements bruts. Donc, on parle vraiment du présent actuel. C'est surtout sur le programme de Mamdani et sur son idéologie, sur la manière de la qualifier. Donc, je résume très grossièrement son programme à Mamdani, donc programme dans le cadre de politique municipale, évidemment. C'était de geler le prix des loyers, de garantir des garderies universelles gratuites pour la plupart des familles new-yorkaises. Également garantir un salaire minimum dans certains cas et aussi garantir certains droits pour les minorités comme les LGBT, surtout dans le cas du deuxième mandat de Donald Trump qui n'y est pas très favorable. Ce programme-là, c'est pour ces raisons, beaucoup le qualifient de socialiste. Donc déjà, je l'ai dit, Zoran Mamdani lui-même se qualifie de socialiste. C'est une invective qui provient surtout de ses opposants, dont Donald Trump, surtout évidemment, qui lui va le qualifier de communiste. Enfin, beaucoup dans la droite américaine vont dire que New York va glisser dans le communisme. Certaines personnes, certains médias, certains spécialistes ou certains militants se permettent de relativiser un peu ce qualificatif. Parce que pour beaucoup à gauche, surtout à l'extrême gauche, ils vont dire que son programme est modéré, que c'est plus un commencement et une sorte de compromis avec le système capitaliste. Enfin, après, forcément, à gauche, on va toujours trouver que quelqu'un n'est pas assez à gauche. Et inversement, à droite, on va dire que quelqu'un n'est pas assez à droite. Donc, c'est pas ce qui va nous en dire le plus long là-dessus. Mais aussi pour des gens plus modérés, comme par exemple un article de L'Express que j'ai lu, donc un journal plutôt centriste quand même. Dans l'article, il rappelle que ces mesures ont déjà été mises en place ailleurs dans le monde, dans certaines capitales comme Paris ou Vienne, sur notamment le contrôle des prix des loyers, en fait. Donc, c'est sûr aussi que Mamdani, on va le qualifier de socialiste par distinction par rapport à ses deux principaux opposants à la mairie de New York, comme par exemple Andrew Cuomo, qui lui, initialement, fait partie du Parti démocrate, et avait été éliminé à la primaire démocrate pour les municipales par Zoran Mamdani, mais qui a décidé de se présenter tout de même en dissident. Donc lui, on peut le qualifier comme un démocrate modéré, mais soutenu par Trump et une bonne partie de la droite, d'une certaine manière, pour faire barrage à Zoran Mamdani. Et également, on peut noter la présence de Curtis Sliwa, donc un candidat républicain plutôt populiste, qui lui s'est maintenu malgré les pressions, car beaucoup lui mettaient la pression pour qu'il se désiste parce qu'il voulait faire barrage et voter à tout prix Andrew Cuomo pour faire barrage au socialiste Zoran Mamdani, mais il s'était maintenu tout de même. Donc voilà Aurélien, ma première grande question, je vais te laisser la parole. Est-ce qu'on peut qualifier Zoran Mamdani de socialiste ?
Alors je dirais oui, parce que déjà lui-même dit qu'il est socialiste, alors il dit pas que c'est un communiste, il dit que c'est un socialiste. Peut-être qu'il peut avoir des penchants communistes, par exemple, Si je me souviens bien, il y a quelques années, peut-être 3, 4, 5 années, il avait dit que s'il y avait une possibilité d'abolir la propriété privée, bah, ça serait bien. Le problème, c'est que bon, c'est quelque chose de très conséquent à mettre en place, surtout aux États-Unis, ou même dans n'importe quel pays occidental ou non occidental. Mais oui, on peut le catégoriser de socialiste. Lui-même, il est, comme il dit lui-même, un socialiste démocrate, un démocrate socialiste, c'est ce qu'il dit. Ce n'est pas juste un démocrate, il sort du lot. Et en réalité, il sort du lot par rapport au Parti démocrate, il est de la branche de gauche du Parti démocrate, c'est un populiste, dans la définition du terme. Il va à l'encontre des élites, il va à l'encontre du système actuel et le statu quo. Et donc c'est un populiste de gauche, comme Bernie Sanders en est un, et comme et aussi Alexandria Ocasio-Cortez, si je prononce bien, est aussi une populiste de gauche. Ils sont tous catégorisés de socialistes. Mais en fait, les socialistes au sein du Parti démocrate, il ne faut pas l'oublier, ils ont toujours existé. Il y en a toujours eu. Il y a eu des périodes où ils étaient plus prominents que d'autres, bien sûr. Peut-être que sous Barack Obama, il y avait un peu moins de socialistes. La coalition des Blue Dogs, qui étaient ces démocrates de droite, était très très puissant. Ils incarnaient, je pense, presque 30%, 35% des députés au Parlement durant l'époque de Barack Obama. Mais maintenant, la gauche socialiste est un peu en montée aux États-Unis. C'est une contre-réaction à Donald Trump, on peut dire, et aussi un produit un peu culturel aujourd'hui. Mais il faut comprendre une chose, c'est que les socialistes ont toujours existé au Parti démocrate, que cela soit tout simplement Bernie Sanders, ou alors, et aussi, même Danny. En 2024, personne ne savait qui il était. En janvier 2025, au début de cette année, il était, si je me souviens bien, il était à 4-5% dans les sondages. Personne ne le connaissait. Alors que AOC et Bernie Sanders, tout le monde le connaît depuis 30 ans. Hein, il est gouverneur de notre cher État, enfin représentant notre cher État voisin, le Vermont. Et AOC, elle est connue depuis au moins presque une quinzaine d'années, dizaine d'années, après l'époque Barack Obama et début de Trump. Donc en fait, la différence, c'est que Mamdani, lui, vraiment, il devient maire de New York comparé à eux. Donc c'est encore plus une poussée vers l'avant et c'est un taux de popularité qui est encore plus conséquent. Et aussi, elle a toujours été critiquée, elle a été dans beaucoup de médias, beaucoup de personnes l'apprécient grandement, comme Bernie Sanders. Mais là, c'est une vraie différence, c'est tout de même arrivé au pouvoir à la plus grande ville des États-Unis d'Amérique, la plus grande ville en Amérique du Nord. Et c'est techniquement, si je me souviens bien, la ville la plus riche au monde en termes de PIB nominal. L'économie new-yorkaise, si je me souviens bien, fait presque la taille de l'économie italienne, qui est un peu en dessous de l'économie française. Et en plus, c'est une ville conséquente. Ils sont quoi ? Presque 10 millions d'habitants, même peut-être un peu plus. Je me souviens plus exactement, peut-être 8 à 10 millions d'habitants. Donc c'est tout de même pas n'importe quoi. C'est plus d'habitants que, je dirais, 2/3 des États américains aussi. Donc oui, c'est clairement un socialiste, mais il faut comprendre qu'il y en avait toujours eu dans le parti auparavant.
D'accord, donc c'est pas une nouveauté en soi. Effectivement, c'est un sujet que je comptais aborder plus tard dans l'émission. C'est sur la tradition socialiste aux États-Unis, éventuellement liée au Parti démocrate. Donc on va dire qu'en fait, selon toi, Jérôme Mamdani est un communiste et on va commencer à chanter Anthony l'hymne soviétique dans les rues de New York et l'armée rouge va défiler.
Ça, justement, c'était la stratégie pendant les élections de la part des opposants. Curtis Sliwa, c'était le candidat républicain. Ce gars-là, avec son magnifique béret rouge, parce que c'était un des, j'ai oublié le nom, mais
c'est les Guardian Angels.
Voilà, les Guardian Angels qui protégeaient les métros de New York il y a quelques décennies. Lui, c'était un des fondateurs, si je me souviens, ou un de leurs chefs. Curtis Sliwa, c'est le candidat républicain depuis au moins 3 élections, je pense, à New York. Donc, il est connu chez tous les républicains de New York depuis un certain bout. Et Andrew Cuomo, lui, c'est un démocrate modéré, très establishment. Et qui a dû se pencher un petit peu à droite parce que techniquement il y a eu un vote utile des gars de Curtis Sliwa, des républicains de New York, pour voter pour Cuomo parce que Cuomo était devant Curtis Sliwa dans les sondages, même si Sliwa commençait à atteindre des scores assez hauts dans les sondages. Les deux candidats le critiquaient de communiste, le critiquaient d'être aussi anti-Israël, dans les propres mots de Zoran Mamdani. Il avait dit qu'il a commencé la politique aux États-Unis en voulant défendre la cause palestinienne.
Donc c'était ça sa première cause de défense. Et il avait critiqué Israël comme état génocidaire et plein d'autres termes. Et donc c'était quelque chose que les autres opposants étaient vent debout contre lui. Au débat, c'était assez virulent. Vous critiquez pas le Hamas, vous critiquez pas la Palestine, mais vous attaquez Israël. C'est tout même, New York, c'est tout même un melting pot absolu. Je pense que presque 10% de la population, donc c'est pratiquement 800 000 à 1 million d'habitants sont de confession juive. Et les musulmans, je pense qu'ils sont pratiquement pareils, peut-être un peu moins, peut-être 700 000 musulmans dans la ville de New York. Donc c'est tout de même conséquent. Et donc il était critiqué de communisme, mais il était aussi critiqué d'antisémite et aussi d'islamiste. Parce que Zohran Mamdani, c'est un musulman. Beaucoup de New-Yorkais se souviennent des attentats du 9-11, sont traumatisés depuis. Les États-Unis ont été traumatisés, il y a eu un changement d'avant et d'après. Et donc, pour beaucoup de personnes qui sont plus à droite ou qui sont de confession juive, beaucoup sont terrifiés à l'arrivée de Mamdani au pouvoir. Donc, il le traitait de communiste par rapport à l'économie. Trump, beaucoup, le traitait de communiste. On ne veut pas de communiste aux États-Unis, disait. Et beaucoup d'opposants disaient aussi « Ah, tu es un islamiste, tu es un anti-hébreu, etc. etc. » Donc il y a eu beaucoup d'attaques face à lui, mais il y a eu aussi beaucoup de milliardaires conséquents qui ont donné des fonds titanesques, des centaines de millions ou des dizaines de millions de dollars à la campagne de Andrew Cuomo pour essayer de faire battre Zohran Mamdani. Mais après, ultimement, c'est la voix du peuple qui a gagné. On peut même pas critiquer, c'est impossible de critiquer ce résultat. Il a fait un magnifique score de plus de 50%. Donc c'est tout de même c'est plus que la majorité absolue. Donc c'était la voix du peuple qui a gagné, malgré toutes les critiques et les violences qui ont été balancées sur Mamdani. C'est un petit peu comme la campagne de Trump, on peut dire. Trump, il fait une campagne populiste, lui par contre à droite, conservatrice, anti-immigration, pour la sécurité, anti-LGBT ou etc. Et donc, on le traite, c'est comme les critiques qu'il y avait sur Charlie Kirk, on le traite de fasciste, de nazi, de réac, de homophobe, de LGBTophobe, etc., etc. Et donc, ultimement, il y a beaucoup de critiques, c'est ça, parce qu'il faut comprendre que quelquefois, on attaque beaucoup la personne, on le traite de facho, ou on le traite de communiste, ou de génocidaire, ou quoi que ce soit qu'on peut le traiter. Et ultimement, quelquefois, ça nourrit sa base électorale et ça nourrit sa popularité. Donc, c'est un peu ce qui s'est passé pour Trump durant les dernières élections 2024 et 2016. C'est ce qui s'est passé avec Mamdani aussi. C'est qu'on nourrit la haine envers le candidat ou ses propositions. Et en fait, dans les deux cas, ils se font élire, que ce soit à gauche ou à droite. Donc, c'est vraiment intéressant de voir ce qui s'est passé.
Merci, ouais, mais justement, tu parlais un peu de victoire du peuple et éventuellement aussi d'une certaine couleur de l'électorat de New York. Ça m'amenait à la prochaine question, et qui était justement, globalement, tu dirais à quoi ressemblerait l'électeur moyen de Zohran Mamdani ? Parce qu'en fait, voilà, comme je dis, la victoire de Mamdani peut surprendre, surtout dans le contexte new-yorkais. C'est la Big Apple, on l'associe au capitalisme triomphant et tout. Mais après, New York, ça reste quand même une grande métropole, donc beaucoup de grandes métropoles dans le monde, comme Paris, Montréal, Mexico, donc ce sont des villes très puissantes, très capitalistes d'une certaine manière, mais d'un autre côté, qui ont plutôt tendance à élire des maires quand même progressistes. Mmh. Et New York, c'est forcément son cas à certains moments. Et surtout, New York, ça reste une ville quand même relativement inégalitaire, donc il y a peut-être forcément une classe populaire qui a peut-être souvent... qui va peut-être souvent se faire un petit peu entendre. Mais surtout, c'est une ville très diversifiée. Oui. Et donc là, on est à fond dans le multiculturalisme américain, au nord-américain. Et là, forcément, ça peut être propice à des politiques identitaires comme celles promues par le Parti démocrate. Mmh. Et surtout ceux qui se considèrent comme socialistes, qui s'en revendiquent en bonne partie de ces politiques identitaires. Mmh. Donc malgré tout, New York peut être un certain... c'est mon hypothèse et tu vas y répondre. Mmh. New York peut rester un certain... terreau fertile pour certaines idées comme celle de Mamdani. Est-ce que tu pourrais me répondre tu pourras me répondre brièvement après la pause musicale.
Bien sûr.
Merci. Bref, on reprend l'émission On Jase Politique. Ma dernière question à Aurélien, c'était à quoi ressemble grosso modo l'électeur moyen de Zohran Mamdani ?
Alors, l'électeur moyen de Zohran Mamdani, alors je dirais qu'il y en a plusieurs. Donc l'électeur moyen, c'est un peu un fourre-tout. Il a tout de même eu 51% des voix. Donc il a eu de tout. Déjà, surprenamment, il a eu 40% des voix de la communauté juive de Montréal. Je pense que c'était peut-être ceux qui étaient peut-être plus modérés sur leur confession, peut-être. Aussi beaucoup de jeunes, c'est normal. C'est une ville assez universitaire, New York University, Columbia University et quelques autres, qui fait que je pense que l'électorat moyen tout de même faisait une personne qui était Gen Z, vingtaine, fin vingtaine, beaucoup de millennials aussi. Et bien sûr, des classes moyennes et populaires. Donc, les riches, il n'y en avait pratiquement pas qui ont voté pour lui. Aucun. Ils ont tous voté pour Cuomo et, ou alors pour Curtis Liwa. Cuomo, pour information, a fait environ 41%. Curtis Liwa a fait environ 4%. Parce que ceux de Sliwa sont allés vers Cuomo. Donc, les classes plus aisées ont voté pour Cuomo et Sliwa, alors que ceux qui sont beaucoup plus pauvres ont voté pour Zahra Mamdani. Et c'était vraiment un vote... on peut avoir des jeunes de la vingtaine, trentaine, comme des personnes, il y avait tout de même des personnes de 70 ans, 60 ans, 80 ans, qui ont aussi voté pour lui. Parce qu'il faut se rendre compte que l'État de New York, c'est tout de même un État qui a... changé, qui a vu beaucoup de maires passer. Ils ont vu des maires dans les années 90 plus à droite avec Giuliani, républicain. Ils ont eu Mike Bloomberg, qui était un républicain modéré dans les années 2000. Ensuite, ils ont eu fin 2000, début 2010, ils ont eu, j'ai oublié son nom, mais c'était un démocrate assez à gauche. Enfin, un démocrate assez à gauche, était surtout progressiste. Ensuite, ils ont eu Eric Adams, le dernier maire, qui était un afro-américain, qui lui était un démocrate plus à droite, forme sur les forces de la sécurité. Donc en fait, ils ont un peu tout eu sur le spectre politique. Ils ont eu dans les années 90 et 2000 des républicains. Fin 2000-2010, ils ont eu des démocrates. Ils ont même eu des républicains de gauche et démocrates de droite. Ils ont eu de tout. Et donc, il y a beaucoup de personnes de plus de 60 ans, hein, de 50 ans, qui vivent dans cette ville, qui adorent cette ville. C'est une ville incroyable. New York, j'adore y aller visiter, surtout pendant la période de Noël. C'est incroyable. Mais on aime cette ville. Mais cette ville, c'est une ville qui s'écroule un petit peu. C'est une ville qui peut-être meurt à petit feu. L'inflation est terrible. Le coût du logement est dingue. Si je me souviens bien, l'appartement moyen à New York qui doit être un appartement entre 35 et 70 mètres carrés, le loyer coûte environ 3 000 à 3 500 dollars américains par mois. C'est énorme. Le coût de la vie, le coût de l'alimentation... les transports en commun qui peuvent être de piètre qualité, la sécurité qui s'aggrave et l'inégalité économique qui est écrasante à New York. Donc ils ont essayé tout, de la gauche à de la droite. Et donc il y a beaucoup de personnes de plus de 50 ans qui ont vraiment vu cette ville évoluer et qui ont voté à chaque municipale et qui voient que ça ne change pas. Donc, ils finissent par voter pour Zoran Mamdani. Donc, il y a des jeunes qui sont assoiffés de pouvoir, qui disent « Ah, c'est le peuple qui arrive à City Hall, c'est le peuple qui est vraiment représenté aux élections municipales face au statu quo, etc., et aux élites new-yorkaises. » ils voient que bah voilà, ils peuvent être enfin représentés, les jeunes, et il y a aussi des personnes plus âgées qui sont là depuis un certain bout et qui voient que leur ville ne fait que s'écrouler d'année en année et qui veulent enfin du changement. Donc il y a des jeunes et il y a des vieux, il y a de la classe populaire, il y a beaucoup d'universitaires, il y a des petits gérants d'entreprise, mais dès qu'on arrive dans la classe aisée, et en vrai pas mal de gérants d'entreprise, de TPE, de PME, il y en avait certains, j'ai vu dans les entrevues de la NBC News et tout ça, qui sont en plus des médias plus à gauche qu'à droite, qui disent que il y a pas mal de petits marchands qui sont pas peut-être en faveur de Zoran Mamdani. Ils ont peur qu'il y aura une baisse du salaire et ils ont peur qu'il y aura beaucoup d'habitants qui vont quitter la ville de New York. Il y a environ 1 million d'habitants qui veulent peut-être quitter la ville de New York s'il arrive au pouvoir. Après, on verra si ces personnes vont faire cela. Hein. Mais c'est ça, c'est ça.
Ok, ouais, non, merci, c'est très éclairant. Mais ce qui m'a plus frappé, en fait, de ce que tu as dit, c'est que New York a connu un petit peu toutes les expériences, en fait, républicains, démocrates, modérés, oui, un peu plus extrêmes. Et d'une certaine manière, on peut dire que l'élection de Mamdani, qui se revendique socialiste, est logique dans le sens, New York, t'as un petit peu toute la place pour un peu toutes les idéologies, en fait.
Ah oui, absolument.
Un peu
oui,
comme aux USA aussi, les USA, avec le recul, ce dont on se rend compte, c'est que tu sais, t'as tellement d'idéologies différentes et parfois hors normes qui cohabitent, tu vois.
Oui, c'est ça. Le problème, c'est qu'ils sont représentés les deux dans juste deux partis politiques principaux.
Oui, oui, c'est vrai. Oui, c'est très intéressant ce que tu dis. C'est genre, y a des milliards d'idéologies, mais c'est dans deux partis. Et là, forcément, ça demande beaucoup de compromis. Ça, oui. Ça crée beaucoup de frustration aussi. On pourra en jaser pendant des heures sur comment Trump parvient à maintenir l'équilibre dans son camp républicain ou comment les démocrates parviennent à faire... maintenir l'équilibre entre les plus centristes et les plus socialistes, justement, comme Amdani, ou les plus woke, d'une certaine manière, aussi.
Ouais.
Donc, effectivement. Écoute, merci pour cette description très exhaustive de l'électorat de Amdani. J'allais passer au deuxième bloc de questions, qui est plus lié au contexte, mais à long terme, enfin, plus au passé, en général. Donc là, on passe du présent au passé. Donc c'est surtout sur le socialisme aux États-Unis. Bah, tu m'as parlé un peu du contexte général du socialisme américain. Et dans un premier temps, je voulais un petit peu remonter plus dans le passé, en fait. Parce que, bon, donc, comme j'ai dit, l'élection de Mamdani, elle s'est beaucoup faite remarquer, elle tend à beaucoup surprendre. Mamdani, qu'il soit réellement socialiste ou non, enfin, en fonction des qualificatifs que les gens lui donnent, on place dans tous les cas dans l'aile gauche du Parti démocrate, ça c'est certain. Et son affiliation semble quand même plutôt marginale ou un peu contre-intuitive, je dirais, dans le contexte new-yorkais, comme j'ai dit, ou américain. Parce que tout simplement, dans un pays qui est autant associé au capitalisme, et une ville qui symbolise particulièrement cette identité, en fait. Donc j'avoue, je connais assez peu le sujet sur les expériences socialistes aux États-Unis, enfin les expériences plutôt, les mouvements. Donc je pense qu'il y a eu un certain nombre d'organisations qui ont peut-être eu plus ou moins de succès avec des syndicats, normalement. Mais après, voilà, bon, on peut citer une des rares expériences gouvernementales qui s'est à peu près rapprochée du socialisme, c'est le New Deal de Franklin Roosevelt dans les années 30-40, qui consistait en des investissements très massifs de la part de l'État pour relancer la consommation après la Grande Dépression des années 20-30. Donc c'est une politique vraiment étatiste qui a perduré jusqu'aux années 80, où Ronald Reagan a changé la donne et a plutôt... fait orienter le pays vers une politique qui deviendra, dont le nom deviendra le néolibéralisme. Mmh. Après coup, les États-Unis sont plutôt plus ou moins restés dans ce contexte-là, un peu réganien, même si certains présidents démocrates, à l'instar de Bill Clinton, Barack Obama ou Joe Biden, ont quand même fait preuve de certaines tentatives pour essayer de... resocialiser l'économie, mais dans certains secteurs précis, je pense notamment à l'Obamacare. La question c'était, historiquement parlant, est-ce que tu dirais que le socialisme est un phénomène réellement marginal aux États-Unis, dans son histoire ?
Alors, déjà pour répondre à ce que tu as dit comme point tout à l'heure, que c'est un peu incohérent ou c'est original ou...
Je dis pas que c'est incohérent, mais ça... Ça surprend, tu vois. Ça
surprend que Mamdani, un gars très à gauche, soit élu dans une ville qui est l'inquintessence du libertarianisme, du libéralisme économique. Encore une fois, souvenons-nous des slogans marxistes de la vieille époque, l'international, c'est « nous ne sommes rien, soyons tout ». Et techniquement, dans une ville, même à part peut-être Monaco, mais dans la majorité des villes, même Londres ou Paris, où il y a énormément de riches et c'est ultra élitiste et ultra libéral économiquement comparé au reste des territoires, il y a tout de même une majorité de la population qui vient des classes laborieuses. Que ça soit les chauffeurs de taxi, les chauffeurs de métro, les vendeurs dans les magasins, ou même les petits employés, les petits cadres. Hein. On peut les considérer de bourgeois dans les textes marxistes, mais ça, c'est de loin pas ceux qui sont ceux de Wall Street, etc., et des grands chefs financiers, des banques et des traders et tout ça. Donc en fait, même dans les villes très à droite économiquement, il y a tout de même une base majoritaire de population qui vient de la classe moyenne ou des classes plus populaires. Donc c'est normal. Donc en vrai, si tout cet électorat s'unifie, bam, en une personne, en vrai, cette personne très à gauche peut gagner malgré être une ville très à droite. Alors, pour revenir, le socialisme, le communisme marginalisé aux États-Unis, quand on compare à les États-Unis face à... il y avait l'ancien chef du Parti socialiste allemand marxiste dans les années fin 1800, qui avait dit la première grande révolution communiste, si je me souviens bien, il avait dit la première grande révolution communiste en Occident sera aux États-Unis. Ça, c'était, je pense qu'il avait dit ça en fin 1800, donc avant la révolution russe. Ça s'est pas passé. Et il y a plusieurs facteurs. Déjà, pour constater, presque tous les pays en Occident, en Europe, ont eu un gouvernement à une époque qui était soit socialiste ou communiste. Et on dit vraiment du socialisme. En France, on a été gouverné par des socialistes. La fin de la Troisième République, c'était le SFIO, c'était la gauche. Même dans les années 50, les 5-6 derniers, après la Deuxième Guerre mondiale, le Parlement français était gouverné par le Parti communiste français. Donc on a eu une période de socialistes et de communistes en France, ou de la gauche radicale républicaine en 1900. Et ça, c'était dans pratiquement tous les pays en Occident, à part l'Angleterre, où eux, leur parti centre-gauche, c'est ultra-modéré, qui, eux, même pendant la révolution industrielle ou après, n'ont pas vraiment eu de gouvernement très, très à gauche. Mais tous les pays, l'Allemagne, l'Italie, ont tous eu des gouvernements très à gauche à une période. Les États-Unis, non. Alors, il y a plusieurs facteurs, parce qu'il faut comprendre que les États-Unis, c'est un pays qui s'est construit assez tard. Quand l'Europe s'est urbanisée, on s'est développé beaucoup plus tôt que les Américains. Même quand les Américains commençaient à s'enrichir avec la période le Gilded Age, entre 1800, la période de la Reconstruction, 1880, ensuite jusqu'aux années 1910, l'Europe restait plus développée dans tous les États, dans tous ces systèmes, nos systèmes de santé, nos armées, nos systèmes d'éducation, de transport étaient toujours plus avancés que les Américains. C'est juste que c'est vrai que les Américains devenaient une grande puissance industrielle. Et quand l'économie va si bien, et quand il y a une croissance, et quand l'individu est assuré d'avoir un emploi, il y a moins de raisons à voter communiste ou socialiste. Parce que tout le monde voulait être son propre entrepreneur, tout le monde pouvait être riche aux États-Unis. Ils se sont bâtis très tard, alors que nous, on arrivait déjà à notre maturité. En Europe, on avait eu une crise économique énorme avant la crise des années 30. En Europe, il y avait la crise des années 1870-1880. C'est d'ailleurs une fun fact, la tour Eiffel a été partiellement construite parce qu'ils voulaient faire l'exposition universelle à Paris en 1889 et ils voulaient faire la tour Eiffel et ils disaient qu'avec cette expo universelle, on va restimuler la croissance économique française parce qu'on était à Berne pendant 10-15 ans. Hein. Donc, et aux États-Unis, ils avaient ça, mais c'était un peu moins parce que toi, ils étaient en vraie période de croissance économique. Ils construisaient dès le début. Et ils commençaient à s'urbaniser, à s'étendre à l'ouest du pays. Et justement, par rapport à l'extension à l'ouest du pays, les ouvriers aux États-Unis avaient un mouvement, pas seulement un mouvement social, hein, c'est le rêve américain, mais il y avait aussi un mouvement individuel qui était plus conséquent qu'en Europe. L'ouvrier moyen en 1880, par exemple, ou 90, avait 20%, 20 à 30% de chances de changer de là où il travaillait, carrément d'État américain, chaque année. Il avait 25% de chances de bouger pour aller ailleurs à 1000 km plus loin ou 2000 km plus loin, trouver un autre travail. Alors qu'en Europe, bah non. Désolé, mais c'était peut-être 10% qui, chaque année, quittaient carrément de région ou de pays. Et en vrai, ils ne quittaient pas le pays. Hein. L'ouvrier allemand, en 1890, il n'allait pas en France pour chercher de l'emploi. Il restait au même endroit. Et c'était un petit pays. Hein. Les pays européens, c'est tout petit comparé aux États-Unis. Et tu restes dans ton petit pays qui est soumis à la même politique industrielle et économique, dans beaucoup de cas, que tu vas dans une région de ton pays, en Bavière, ou alors juste en Saxonie, ou alors à Berlin, ou alors à Francfort. C'est pratiquement la même chose. Donc, en vrai, c'est ça. Et donc, comme aux États-Unis, comparé à l'Europe, il y avait un grand mouvement des travailleurs à gauche, à droite, nord-est, ouest, eh ben, c'était vachement plus compliqué pour être capable de créer et unioniser un mouvement communiste au niveau américain. C'était vachement plus compliqué. Alors qu'en Europe, bah, c'était beaucoup plus soudé et l'ouvrier bougeait moins, c'était plus simple de faire des unions et tout ça. Et vu qu'aux États-Unis, c'était vraiment une mentalité beaucoup plus capitaliste et économiquement de droite que l'Europe, entrepreneurial et on peut trouver du boulot ailleurs si ça ne marche pas dans cette entreprise, et ben, en vrai, il y avait encore moins de volonté du public, des ouvriers ou alors des politiciens de créer ou de faire des mouvements plus à gauche, etc. Et aussi aux États-Unis, c'est un pays qui fonctionne entre deux partis politiques, les démocrates et les républicains, principalement. Il y a aussi le parti libertarien, le parti vert, mais ceux-là sont tellement marginaux qu'on n'en parle vraiment pas. Mais ultimement, quand quelqu'un veut créer un parti communiste, un vrai mouvement communiste, dans plusieurs États américains, déjà c'est compliqué parce qu'il faut qu'il s'implémente dans tous les bureaux de vote, dans tous les États américains. Donc ça, c'est extrêmement compliqué. On peut penser juste à Kanye West, qui avait essayé de faire ça il y a certains temps. On pouvait voter pour lui, Kanye West, aux élections de 2020, je pense que c'était 2020, que seulement dans 4-5 États, si je me souviens, alors qu'il avait tout de même pas mal d'argent. Mais ultimement, plus d'argent qu'un ouvrier, en tout cas, du Milwaukee, disons. Donc créer un parti politique communiste, ou voter pour un parti politique communiste aux États-Unis, même il y a 100 ans, c'était ultra compliqué. Parce que combien de fois un Américain dit « Ah, je vais voter pour le Parti communiste américain ». Il existe. Peut-être qu'il n'est pas dans ton bureau de vote, mais il existe. Je vais voter pour lui. Et ensuite, il y a ton ami qui dit « T'as vu la montée de Trump ? Non, 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 tu vas voter pour le démocrate ». Et donc, en fait, aux États-Unis, c'est vachement le vote utile. Je pense que s'il y avait 4-5 partis politiques aux États-Unis, alors là, ça serait 10% au niveau national, 20%, 30%, 20% pour chaque résultat, etc. Et on accumulerait à 100% à la fin. Mais parce qu'il n'y a que deux partis politiques, c'est tout le temps le vote utile. Il y a plein de démocrates qui voudraient voter plus à gauche que le Parti démocrate, j'en suis sûr. On peut constater avec Zohra Mamdani, avec Vermont, Bernie Sanders, voilà, désolé, Bernie Sanders. On peut constater avec ça, mais ils ne vont pas voter pour un petit parti écologiste ou alors socialiste dans leur État. Parce qu'il y a les républicains face à eux. Et c'est la même chose pour les républicains. Je pense qu'il y a tout de même pas mal de républicains qui voteraient encore plus à droite. Il y aura aussi des républicains qui voteraient peut-être plus pour un parti qui est encore plus chrétien, catholique et tout ça. Ou alors protestant, plus radical sur ça. Mais ils ne veulent pas parce qu'ils disent « Ah, il y a les démocrates ». Donc c'est ça aussi, c'est plus compliqué. Alors qu'en Europe, c'est vraiment un système parlementaire où en vrai, vas-y, on vote pour ça parce qu'on vote pour ça. Et en plus, on va peut-être avoir la majorité parce que ce parti communiste-là va s'allier avec tous les autres partis de gauche, centre-gauche et extrême-gauche, et ensuite ça va gagner la majorité du Parlement. Donc c'est ça. Ensuite, deuxième facteur qui fait que les communistes et les socialistes sont minoritaires aux États-Unis depuis longtemps, c'est tout simplement le Red Scare. C'est les années 50. C'est l'apogée de la guerre froide. C'est les tensions conséquentes entre la fin de Staline, Khrushchev, Brezhnev, jusque dans les années 60, 70, mais surtout les années 50 et 60, où tu es communiste, t'es un dissident, on te fout en prison. Et c'était vraiment, vraiment strict à l'époque, avec le gouvernement américain, où c'était vraiment une période de tension, où vraiment toute personne qui avait un potentiel de pensée communiste ou socialiste pouvait être finie en prison, pouvait être licenciée. Ils étaient traqués, les services secrets étaient partout. Ils étaient même sur les campus américains pour faire du mal ou mettre à tort les groupes communistes et socialistes qui pouvaient se créer. Et ça, ça a été dans la conscience des gens. Des Américains, beaucoup des vieux à leur époque, jusque dans les années 80. Oh non, pas le communiste, non, pas le socialiste. La guerre froide, c'est horrible. Beaucoup de jeunes étaient plus en faveur de ça. Hein, le mouvement hippie dans les années 60 est né avec ça. Mais donc vraiment, la guerre froide a aussi vraiment été un mouvement qui a terrifié la population américaine et les institutions américaines du mouvement socialiste. Parce que concrètement, Franklin D. Roosevelt, alors c'était pas un communiste, il avait des mouvements socialistes, c'était un étatiste, c'était un gars qui faisait des grands projets. En réalité, c'était un petit peu un De Gaulle à l'américaine, dans un certain sens, juste dans un certain sens. Mais c'est ça, mais en vrai, il y a eu des villes communistes, socialistes aux États-Unis. Il y a eu des représentants dans des sénats d'États américains qui étaient socialistes et communistes. La ville de, je pense que c'est la ville de Milwaukee, qui était plus conséquente dans le poids démographique il y a 120 ans, était communiste à une période. Il y a eu beaucoup d'élus de petites villes communistes à l'est des États-Unis, ou beaucoup d'élus dans les chambres des communes de chaque État qui étaient communistes ou socialistes. À la fin de 1800, au début 1900, il y en avait en 1910, il y en avait en 1920. Et c'est vraiment à partir de la guerre froide où ça a commencé à s'écrouler. Et maintenant, il n'y en a pratiquement pas de représentants communistes ou socialistes, même au niveau régional ou au niveau des États, des petits États américains. Mais c'était un peu plus le cas à l'époque, avant la guerre froide. Mais ça restait plus faible qu'en Europe.
Merci beaucoup. Il y a tellement de choses qui deviennent beaucoup plus claires pour moi. Merci. Ça m'amène à plusieurs choses. Bah, déjà, un peu sur le bipartisme, on en parlait un peu tantôt. Le bipartisme, il y a un petit côté frustrant, tu vois. Surtout quand t'es de l'un ou de l'autre bord, je caricature un peu, mais quand t'es dans un des deux bords, bah, si tu votes soit pour les gentils, soit pour les méchants, ou bien tu votes pour le moins pire et contre le pire, un peu comme souvent les seconds tours des élections présidentielles en France, qu'on parle de faire barrage, comme par exemple voter Macron pour la gauche et même l'extrême gauche, la logique de voter Macron contre Marine Le Pen, ou à l'inverse aussi, aux élections législatives parfois, l'idée pour certains à droite de voter Macron, macroniste, centriste, voire même gauche modérée contre l'extrême gauche.
C'est ce que tu as eu au Canada récemment. Au Canada, le NPD passe de 18% dans les sondages à 6%, parce que les gars du NPD, les électeurs, vont voter pour Marc Carnet pour faire face à Poilievre.
C'est sûr que c'est un système particulier parce que c'est scruté à un tour seulement, donc... d'une certaine manière, ils n'ont pas trop le choix, si j'ose dire, et surtout dans ce contexte où là, les gens vont parler de polarisation politique, certains vont parler d'une urgence et tout, mais oui, et puis par rapport à ce que tu disais sur le fait que le communisme ne s'est pas trop implanté aux USA, effectivement, c'est multifactoriel. Tu as très bien noté justement, nommé à la fin, c'est ce qui s'était passé avec le macartisme, notamment, où là, il y a eu comme une... certaines répressions directes qui est un peu dissuadé plus d'un communiste à s'affirmer. Mais c'est aussi, c'est une chose dont j'avais pensé, en fait, que j'ai vu dans mes recherches, tu l'as un peu évoqué aussi, c'est que si le communisme n'est pas tant implanté, c'est que d'une certaine manière, c'est parce que le capitalisme, c'est super... je dis pas ça. Que le capitalisme a bien fonctionné pour les ouvriers, de telle sorte qu'ils n'ont pas eu besoin de tant se rejoindre en syndicat, tu vois. Après, il y a eu ce que tu as dit aussi, les tendances démographiques, le fait que ils peuvent aller, aux États-Unis, ils peuvent aller d'un endroit à un autre, alors qu'en Europe, on sait, c'est des petits pays très denses et c'est plus compliqué.
Exact.
Mais souvent, c'est plus concentré, ça favorise les mouvements. Mais aux États-Unis, il y a beaucoup plus de mobilité, de fluidité et de facilité à retrouver un emploi si tu te fais virer. Donc là-dessus, oui, justement, ça constitue comme un obstacle naturel.
Il y a aussi un facteur simple, c'est qu'un mouvement communiste se crée en Allemagne, ça va influencer le mouvement communiste en France. Et ça transcende un peu les frontières. Le communisme, techniquement, le marxisme, ça transcende les frontières par définition, il n'y a pas de frontières. Mais c'est beaucoup plus difficile en 1900 de traverser cela jusqu'au bord au bout de l'Atlantique.
Alors après, si j'ose dire, il y a quand même eu des expériences anarchistes au Mexique pendant la révolution des années 1910-1920. Justement, il y a eu... il y a eu les révolutions qui concentraient beaucoup de temps différents, mais il y a eu des anarchistes qui ont été très influents, très puissants et qui ont même failli prendre Mexico.
Ouais, mais justement, c'est parce que c'était une révolution. Aux États-Unis, ils n'ont pas eu de révolution.
Oui, c'est ça.
S'ils avaient une révolution, peut-être qu'il y aurait eu des fortes tendances à gauche.
C'est vrai qu'il y a un océan qui fait la différence, tu vois, ça c'est sûr, c'est un peu naturel. Et pendant que j'y pense, au Canada non plus, il n'y a pas eu tant d'influence du communisme.
Parce que l'influence de la couronne britannique.
Oui, c'est ça. Et puis, je pense à certains groupes marxistes-léninistes au Québec dans les 60-70, dont j'ai entendu parler. Mais quand tu connais, c'est quand tu explores beaucoup le sujet, sans vouloir me vanter. Et là, forcément, c'est pas des choses qui vont sauter aux yeux.
Ouais. Donc, parce qu'au Québec, il y avait du Plessis. Et aussi, justement, à partir des années 60-70, c'est après la perte du momentum de l'Église, en fait.
Oui, c'est ça. Et surtout, en partie, quand le nationalisme s'est passé d'un nationalisme identitaire à un nationalisme civique, en fait.
Donc, exactement, oui.
C'est ça, c'est un sujet très intéressant dont on pourrait parler. On pourrait en faire un épisode, si on a l'occasion. Merci pour ce contexte absolument nécessaire à comprendre. Et je voulais parler un peu plus du contexte, plus dans le passé récent ou même un peu le présent. C'est la popularité du socialisme à l'heure actuelle. Parce que j'ai cru comprendre que le mot socialisme n'était plus tant considéré comme un gros mot aux États-Unis, moins qu'avant. Alors, je ne sais plus si c'est environ 40% des Américains, je crois, tu me corrigeras si j'abuse, 40% des Américains qui ont une bonne idée du socialisme tel quel, puis de plus en plus qui ont une idée plus critique à l'égard du capitalisme. Après, c'est un peu plus nuancé, tu vois, ils vont plus être hostiles au gros capitalisme d'une certaine manière, au libre-échange, la mondialisation, ils ne vont pas être tant hostiles au concept de propriété comme tel, avec les petits entrepreneurs et tout. Mais voilà, le socialisme tel quel, le socialisme à la même d'année, on va dire, commence à gagner un peu de popularité aux États-Unis, parce que je pense aussi, tu les as justement nommés, c'est des adhérents ou des proches du Parti démocrate, comme par exemple Bernie Sanders, Alexandria Ocasio-Cortez, ou aussi Rachida Tlaib, qui sont pas mal qui s'identifient pas mal au socialisme, qui font partie du parti, des démocrates, je sais plus comment ça s'appelle, c'est le PDS, je crois, Parti des démocrates socialistes, Democratic Socialist of America, un truc de même. Et c'est ça qui, eux, sont très influents au sein du Parti démocrate. Et justement, peux-tu me dire quelques mots sur l'influence du socialisme notamment au sein du Parti démocrate et particulièrement sous l'ère Trump?
Déjà, justement, pour faire un parallèle avec Mamdani, lui, il est au Parti démocrate, mais il est aussi membre de son propre parti, qui est Working Families. Donc, c'est les Working Families of New York. Donc, les familles travailleuses de New York. Donc, ça, c'est son mouvement qui est plus à gauche que le Parti démocrate. Alors, il y a une pression au sein du Parti démocrate vers le socialisme. Alors, si je me souviens, c'est... parce que déjà parmi les démocrates, il y en a pas mal qui sont plus à gauche et qui sont pour le socialisme. Alors les sondages, ouais, c'est ça, entre 40 et 50% normalement des personnes qui sont nées après les années 80, je pense, sont en faveur que les États-Unis soient gouvernés par une gouvernance socialiste. Voilà, donc c'est 50%. Au sein du Parti démocrate, cela se ressent. Pendant les périodes Bill Clinton, je doute qu'il y avait beaucoup de socialisme. C'était de la gauche très modérée et libérale et statu quo. Mais c'est un peu le socialisme monte un peu quand on arrive, comme d'ailleurs l'extrême droite monte aussi, quand on arrive à un moment où notre économie est un peu en berne, où il y a des problèmes sociaux, il y a des fractures sociales, il y a des fractures économiques. Donc c'est plus le cas maintenant que dans les années 90, où en plus c'était un monde idyllique, où il y avait plus de blocs soviétiques, etc. Et donc le centrisme et le libéralisme mondialisé étaient vraiment à son apogée. Il y avait peu de communisme à cette époque, et là ça remonte parce que problème économique, problème social, et aussi l'arrivée de Trump, qui terrifie beaucoup une partie de l'électorat. Et donc, les démocrates se cherchent un peu. Est-ce qu'on va aller plus à gauche? Est-ce qu'on maintient sur le statu quo centre-gauche? C'est un peu une difficulté. Il y a aussi beaucoup de financement et des lobbies des entreprises et tout ça qui font que tu peux pas aller trop à gauche. Donc, c'est un peu compliqué. Mais au sein du Parti démocrate, c'est vrai que comparé à il y a 15 ans, sous Bush ou Bill Clinton, c'est vrai que là, il y a une petite remontada de la gauche socialiste au sein du parti.
Mais effectivement, oui, tout simplement, le mot qu'on peut utiliser, c'est polarisation, simplement, polarisation. Oui. Quand ça polarise, enfin, quand ça va à l'extrême d'un côté, souvent, ça encourage à aller vers l'extrême d'un autre, tout simplement. Bref, après ce dernier spot publicitaire et musical, nous discuterons des perspectives éventuelles du socialisme aux États-Unis. On reprend l'émission pour la terminer, tout simplement, et pour que je pose mon dernier bloc de questions dédié à l'élection de Zoran Mamdani à New York, à Aurélien. Et mes dernières questions, c'est notamment lié aux perspectives éventuelles du socialisme aux États-Unis. C'est surtout, est-ce que l'élection de Mamdani, c'est un peu une longue question, mais juste formuler un peu mon idée là-dessus. C'est pour savoir s'il peut y avoir concrètement des répercussions au niveau national sur le socialisme déjà, mais sur le Parti démocrate, sur le fait peut-être que ça peut éventuellement influencer le Parti démocrate dans sa stratégie future, et notamment par rapport aux futures élections de mi-mandat qui auront lieu dans un an, me semble, et aussi peut-être des élections présidentielles de 2028, ou aussi c'est pour savoir s'il ne pourrait pas y avoir une perspective internationale, parce que j'entends depuis l'élection sur Twitter, sur tous les réseaux et dans les médias, je vois beaucoup un peu des parallèles ou des félicitations en rapport avec des partis politiques dans le monde, comme par exemple le NPD au Canada, Québec solidaire au Québec, la France insoumise en France, un peu tous les partis de gauche et pas mal dans le monde, qui se félicitent de la victoire de Mamdani et qui vont dire, qui vont se revendiquer un peu de cette victoire et vont dire, vous voyez, Mamdani est élu, ça veut dire que notre modèle peut être séduisant, qu'il peut fonctionner, et c'est de ce modèle dont on se revendique, et ça peut fonctionner. Et donc voilà, c'est sûr que forcément, Mamdani, ça devient un sujet parce que c'est un sujet pour la gauche, en fait. Et ça donne un nouvel espoir, surtout à l'heure, déjà aux États-Unis où Donald Trump a été élu pour un deuxième mandat, et où aussi l'extrême droite ou la droite en général obtient un certain succès, un succès sans précédent dans le monde. Donc éventuellement des perspectives nationales, voire internationales. Mais d'un autre côté, je vois certains relativiser, ce succès de Mamdani, et pour qui Mamdani serait plutôt un succès strictement local, en fait. Donc on en a parlé avec Aurélien, ça répondait surtout, en bonne partie, ça répondait à des logiques un peu locales. Le fait que New York, c'est une grande métropole, notamment multiculturelle, avec certaines inégalités, donc ça peut être des logiques propres à une métropole, mais aussi à New York telle qu'elle. Et surtout, on sait que le Parti démocrate ne va pas prendre voir cette victoire comme une catharsis, quoi. Parce qu'au même moment, il y a eu des élections. Alors, je sais plus quelles élections, c'est les élections locales, mais Aurélien va nous le rappeler.
Oui, Nouveau Jersey et Virginie.
Merci, c'est ça. Où là, c'est plutôt des modérés démocrates qui ont été élus. Donc forcément, à ce moment-là, à cette fin de semaine-là,
le Parti démocrate était joyeux. Mais en interne, je pense qu'effectivement, c'était pas, je pense pas que c'était la joie à 100%, quoi. Ils vont forcément être partagés. Et je ne pense pas que, par exemple, si Mamdani, effectivement, porter vraiment le socialisme au sein du Parti démocrate, je ne pense pas que l'ensemble du parti, surtout les plus modérés, vont suivre. On le voit déjà en France avec l'union de la gauche qui s'est faite malgré tout, envers et contre tout, mais on voit bien, ça a du mal à tenir entre la gauche radicale de la France insoumise et les plus modérés du Parti socialiste. Donc voilà, bref, je dis beaucoup de choses, mais donc Aurélien, ma dernière question, c'est donc pour toi, l'élection de Mamdani, est-ce que c'est le signe d'un renouveau concret au niveau national, voire international, pour la gauche surtout, ou bien est-ce que ça répondait à des logiques strictement locales?
Alors, je pense que les démocrates actuellement, ceux qui gouvernent le Parti démocrate, ceux qui sont là depuis longtemps, doivent vraiment se tirer les cheveux, mais vraiment. Parce que je pense qu'ils ont un dilemme, mais un dilemme énorme au Parti démocrate depuis la victoire de Mamdani. En fait, beaucoup de personnes plus à gauche vont dire « bah c'est bon, on a trouvé notre « we found our call », on a trouvé notre vision, notre direction, c'est être plus à gauche. C'est une gauche qui s'affirme, qui est là pour défendre les travailleurs, qui est là pour défendre les classes moyennes et populaires, l'inflation, pour une société plus harmonieuse. C'est bon. » Et il y a les plus modérés qui disent « non, 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 c'est pas bon. » Parce que justement, la soirée électorale là, il y avait la victoire de Mamdani, mais il n'y avait pas juste ça. Il y avait aussi les élections pour la gouverneure de New Jersey, hein, à côté de New York, et pour la gouverneure de la Virginie. Et aussi pour le House Attorney, blablabla, des deux États. Donc, ils ont eu des élections dans les autres États la même journée. Et les deux, comme tu as dit, qui ont gagné les deux États, sont des modérés. Ce sont des démocrates modérés. Et tous les plateaux télé, qui étaient de gauche ou de droite, ont dit que c'était des modérés. Et ils ont gagné parce que ce sont des modérés. Et ils ont gagné avec des scores plus forts qu'aux dernières élections parce que c'était des modérés. Et donc, ils doivent se dire, mon Dieu, mais qu'est-ce qu'on devrait prendre? Parce qu'on a eu deux modérés qui ont gagné avec les meilleurs scores que les démocrates n'ont jamais vus depuis au moins 20 ans dans les deux États, Virginie et New Jersey, parce que ce sont des modérés. Mais en même temps, ils ont vu Mamdani qui a gagné à New York parce que c'est un gars qui est très à gauche. Donc, conclusion, qu'est-ce qu'on prend? On a confirmé que la très à gauche, ça marche, mais on a confirmé que les modérés, ça marche. Et bien là, c'est compliqué parce que en Virginie, l'ancien gouverneur, c'était Youngkin, si je me souviens bien, Glenn Youngkin, qui était un républicain. Il avait gagné, ce républicain, à 50,5% des voix. Ah, donc d'une marge très très faible. Et là, bam, la candidate, elle avait gagné avec 56% des voix, et la républicaine, qui était une afro-américaine si je me souviens, avait perdu à 45% des voix. Donc il y a eu 10%, on est passé de 1% de différence à 10%. Et c'est une modérée démocrate qui a gagné la Virginie, c'est une modérée démocrate qui a gagné le Nouveau-Jersey. Donc je pense que vraiment, ils doivent vraiment se tirer les cheveux. Qu'est-ce qu'on fait? Parce que comme moi, je pense personnellement que Mamdani, il a fait un bon score parce que c'est aussi un enjeu local. Mais après, c'est pas qu'un enjeu local. Hein. Parce que, en vrai, quand on parle de gagner la ville de New York, quand on parle de gouverner un territoire local, même pas un État, juste une ville, une petite région, mais pas un État ou pas pour la présidence américaine, tu dois parler de quoi? Des transports, de la sécurité, du logement. Voilà, c'est ça. Et ça, Mamdani a très bien fait ça. Parce que c'est un gars qui est certes très à gauche, mais il a pratiquement jamais parlé de sujets de gauche identitaire. Il a pratiquement jamais parlé dans tous les médias, que ça soit sur les réseaux sociaux ou à la télévision. Il en a parlé, c'est sûr, c'est normal, c'est son combat. Mais il n'en a vraiment pas beaucoup parlé de cause LGBT, de cause des minorités. C'est un gars très à gauche, hein? Mais en vrai, on ne peut pas le catégoriser comme les gars de droite ne peuvent pas vraiment le catégoriser de woke. Genre, oui, il est pro-migrant. Après, tous les démocrates, majoritairement, sont pro-migrants. Mais il n'a jamais dit « defund the police ». Il n'a jamais dit tout ça. Alors que... Et il a même dit « non, je veux défendre la police, je veux créer une autre brigade pour aider la police, etc. » Et il ne parle pas de sujets très, très progressistes socialement. Il parle juste de l'économie. Et justement, c'est ça. C'est que le combat actuellement chez les démocrates, c'est est-ce qu'on maintient ce centre-gauche modéré, économiquement libéral, très modéré, mais très progressiste sur les enjeux sociaux, LGBT, transgenderisme, conditions des minorités, melting pot. Ou alors, on est quand même Danny qui, en fait, est plus, il lui met même, on doit recentrer le Parti démocrate chez les sujets économiques et moins peut-être des sujets LGBT, migrants. Oui, ils vont en parler, oui, il va être en faveur. Mais recentrer le débat sur ce qui touche tous les Américains, l'inflation, le coût de la vie, le logement, et c'est ça. Et donc, je pense qu'à l'intérieur du parti, ils sont en train de vraiment se batailler. Et ce qu'ils attendent avant tout, c'est, je pense, voir si ça marche.
Non, mais merci beaucoup, parce qu'en fait, je voulais vraiment revenir sur ce que tu dis, sur le fait que même Danny, effectivement, dans son message, il paraît pas woke. Donc, on sait que forcément, bah, c'est sûr qu'il il propose un programme pour les minorités, ce qui est un peu normal, surtout dans le cadre du Parti démocrate et surtout quand tu es très à gauche, surtout à l'heure actuelle. Et ça renvoie beaucoup à un petit peu à les travaux que j'ai fait récemment, parce que dans mon mémoire de maîtrise, je vais résumer, mais je parlais grosso modo du wokisme, enfin tel qu'on l'appelle couramment aujourd'hui, où j'étudiais les programmes politiques de plusieurs formations politiques dans le monde. Et en fait, à chaque fois, un des gros résultats que j'ai dégagé, c'est que d'une certaine manière, oui, les programmes étaient woke, il y avait des droits pour les minorités et tout, mais sur la forme, sur la présentation des choses, c'était pas tant woke en fait. Ce qu'ils faisaient en fait, c'était très habile ce qu'ils faisaient, genre ils mélangeaient un peu un message très favorable aux minorités, mais avant tout dans un message universaliste ou aussi national. Par exemple, j'ai pris le cas de Québec solidaire qui lui avait un programme quand même explicitement favorable aux minorités, mais il le mettait surtout en bonne partie dans le cadre du peuple québécois, en fait. Il parlait avant tout au nom du peuple québécois. Et aussi, par exemple, la France insoumise, qui a eu des évolutions sur ses rapports avec les minorités musulmanes en France. Donc, c'est sûr que ça a évolué et qu'il y a des positions un peu plus woke, on va dire, aussi. Mais là, c'était dans le cadre de l'universalisme républicain, en fait. Il avait un langage très républicain qu'on a toujours trouvé en France, surtout dans la gauche républicaine depuis des décennies, voire des siècles. Et pareil pour le Mexique aussi, Mexique dont le parti au pouvoir présentement Morena, qui ils plaçaient surtout, tout leur programme, ils le plaçaient sous l'angle du peuple mexicain qui s'est battu pendant des siècles contre l'oppression et plein de choses. Donc un message très nationaliste et populiste. Et c'est dans ce cadre qu'ils vont un peu placer les droits des minorités autochtones, en fait. Donc ça revient à ce que je dis, c'est... Après, là, on est en train de parler du wokisme, c'est pas exactement sur le sujet du socialisme, mais c'est un peu une caractéristique du socialisme actuel. Il y a un message un peu plus woke, mais sous un angle qui paraît un peu plus universaliste ou patriote, et qui correspond un peu plus au vieux socialisme aussi.
C'est ça, et en vrai, beaucoup de droites vont dire que c'est un woke. Oui, en vrai, c'est un progressiste, ça veut pas dire que c'est un woke nécessairement, mais... comparé à beaucoup de démocrates ou les mouvements plus à gauche qu'eux, comme Black Lives Matter, qui veut « defund the police », le maire de Minnesota et de certaines villes américaines très à gauche qui disent « on va abroger le pouvoir de la police dans XY quartier, blablabla », Mamdani, non. Il a dit « j'aime bien la police fait un bon travail, il faut continuer, mais il ferait un meilleur travail si on crée une deuxième division, comme Luc Grabouin avait proposé pour Projet Montréal aux élections municipales à Montréal, de créer une autre brigade pour venir en soutien aux policiers et toucher peut-être même la petite délinquance davantage. »
Oui, c'est ça, en fait, il a fait une sorte de mea culpa, en fait, parce qu'avant, il était très pour tout ce qui était défunte de police et tout, mais il a changé un peu, il a mis de l'eau dans son vin, Et c'est ça, il s'est plus modéré et il parle un peu plus à la police aujourd'hui.
Oui, c'est ça. Et les démocrates, maintenant, en vrai, si tu tombes à un programme économique qui est un peu plus à gauche, comme Mamdani, mais qui ne parle vraiment pas beaucoup des valeurs LGBT, ou alors tu peux les défendre, mais qui n'en parle pas H24, et qui... il y a des démocrates qui sont comme ça, être un peu plus ferme sur l'immigration, en vrai, ils peuvent toucher les républicains modérés, ils peuvent toucher les centristes en réalité. Mais le problème, c'est que on peut voir à la primaire des démocrates en 2016, où il y avait Hillary Clinton face à Bernie Sanders, et tu vois que les États qui sont plus à gauche, ils sont pas nécessairement, par exemple la Californie, ils sont pas nécessairement ceux qui sont les plus à gauche économiquement. Ils ont, beaucoup de personnes qui votent à gauche dans ces États-là, ce sont des sacrés bourgeois, des riches. On peut même en penser aux élites américaines, milliardaires, millionnaires, qui adorent du show business, qui adorent les démocrates. Mais est-ce qu'ils sont prêts à voter pour Mamdani ? Je sais qu'il y en a qui sont prêts. Il y avait des célébrités que j'avais reconnues, d'ailleurs. Ma série préférée, c'est The Gilded Age, une de mes séries préférées. Et un des acteurs principaux, il était là à la watch party de Mamdani à New York. Mais... je pense qu'il y a pas mal de démocrates qui sont plus aisés, des modérés. Je pense que beaucoup sont même plus blancs, qui vivent en campagne ou dans les régions un peu plus riches, pépères, comme au Vermont. Est-ce qu'ils sont prêts à voter pour Mme Dani ou alors plus à voter pour du modéré, comme du...
Cuomo, peut-être.
Comme du Andrew Cuomo, etc. C'est ça, le problème. Mais le truc, c'est que le gars, il est vachement charismatique. Mme Dani, il est très charismatique, il a un vrai talent. Moi, j'ai vu plein d'entrevues. J'ai vu plein de débats avec lui. Et bon sang, il est vraiment doué. Ah non, mais vraiment, il répond avec une vitesse fulgurante. Et il répond bien. Il connaît tous les codes. Et il fait vraiment proche du peuple. Et il fait aussi assez authentique et sincère, en vrai. Donc, il peut être un vrai compétiteur face à J.D. Vance pour les futures élections en 2028. Le problème, c'est que si ça marche mal pour Mamdani, s'il n'est pas capable de fixer le prix du loyer, s'il n'est pas capable de rendre les transports publics gratuits sans faire exploser les impôts, et s'il n'y a pas une insécurité qui explose, en conclusion, si son programme se passe bien, ça va être super pour lui et ça peut être vraiment une bonne vision pour les démocrates. Si ça se passe mal, en fait, soit ça passe, soit ça casse. Parce que si ça se passe mal, et franchement, dans 4 ans, il peut dégager, hein. Il peut être remplacé. Dans 4 ans, on aura un démocrate modéré, ou alors, voilà, c'est ça.
Ou bien l'inverse, comme je vais parler de la polarisation, peut-être un républicain extrême.
Ouais, je... New York, c'est...
Oui, wow, après, c'est... oui, bon, j'ai dit, il y a un contexte particulier.
Ouais, c'est ça. Mais donc, c'est ça. Donc, je pense qu'ils veulent voir vraiment ce résultat. S'il fait bien, ils peuvent vraiment faire face à J.D. Vance pour les futures élections. Et si ça ne marche pas, bah, je ne sais pas trop, personnellement. Les experts ne savent pas vraiment trop ce que les démocrates vont faire. Parce que même là, maintenant qu'il est élu, il doit se tirer les cheveux. Soit on garde un démocrate modéré, comme au New Jersey... et en Virginie, soit un démocrate plus à gauche, comme à New York.
Très bien. Merci mille fois, Aurélien, pour ton intervention, comme d'habitude. C'est très apprécié, et pour tes nombreux éclairages sur des sujets tout aussi diversifiés.
Merci.
Je remercie toujours mes chères auditrices et auditeurs pour votre grande écoute. Je rappelle, ce n'est que le début, ce n'est que le troisième épisode, et nous avons encore plusieurs projets d'épisodes pour les semaines à venir. Donc, bref, restez connectés. C'est tous les jeudis entre 13h et 14h dans On Jase Politique sur la radio CFAQ 88.3 FM. Bref, merci infiniment et on se retrouve la semaine prochaine.
Merci.